À bien des égards, l'entre-deux-guerres représente un tournant dans la littérature québécoise. On sait maintenant que le champ littéraire, marqué encore par certaines précarités, connaît un véritable mouvement d'autonomisation. Mouvement qui va se vérifier, entre autres, dans le développement de l'activité éditoriale, dans la naissance d'une critique laïque et plurielle, dans l'essor du genre romanesque ou encore dans l'accès collectif des femmes à la littérature. Ces phénomènes qui vont propulser l'entrée du Québec dans la modernité culturelle se cristallisent au tournant des années 30 lorsqu'est créée, aux éditions Albert Lévesque, la collection « Les romans de la jeune génération ». Fondée dans le but, et je cite Albert Lévesque lui-même, de modifier l'orientation de nos œuvres romanesques, la collection va regrouper quatre titres seulement. « Dans les ombres » d'Eva Sénécal, « La chair décevante » de Jovette Alice Bernier, « Dilettante » de Claude Robillard, donc trois titres parus en 1931, et à quoi il faut ajouter l'initiatrice de Rex Desmarchais, publiée en 1932, titre qui va clore cette éphémère collection, accueillie par ailleurs par un parfum de scandale. La critique est d'abord affolée par la publication de « Dans les ombres », puis c'est « La chair décevante » qui va occasionner une polémique sur les orientations morales, esthétiques et sociales de la littérature québécoise, ainsi que sur l'écriture des femmes. On connaît bien l'impact de cette série sur la critique et la vie littéraire de l'époque. Pourtant, on s'est peu intéressé à comprendre ces mêmes romans entre eux, tant dans leur unité discursive et formelle, que dans leur diversité et leur complexité. À ce sujet, l'exaltation et le débordement constituent probablement deux motifs discursifs et deux idéaux philosophiques structurants de cette collection éditoriale, témoignant ainsi de plusieurs tendances et sensibilités novatrices dans un Québec qui est encore largement dominé par les impératifs clérico-conservateurs en matière de création littéraire. Donc, dans le cadre de ce colloque, je souhaite valider l'hypothèse selon laquelle l'exaltation et le débordement, déclinés en plusieurs figures discursives, modifient substantiellement la poétique romanesque de l'époque, notamment en intégrant dans la texture fictionnelle ce qui vend l'amant nomme, et je vais revenir là-dessus au cours de mon exposé, l'épistémée de la vie et du vivant. Je vais m'appliquer à observer quelques stratégies énonciatives et thématiques récurrentes, comme l'obsession pour l'écriture et la littérature, dans leur corrélation avec des états du débordement et de l'exaltation. Je vais tenter de montrer comment cette expérience des excès se fait l'écho d'un projet existentiel qui dépasse les cadres de la fiction et qui va inscrire les romans dans un contexte plus large de reconfiguration du rapport au réel. Mais d'abord, il faut présenter un peu les auteurs et les titres en question. Les quatre écrivains, deux hommes, deux femmes, on peut le remarquer, sont issus de cette génération perdue dont parle Lucie Robert dans l'Institution du littéraire au Québec, et dont la façon d'agir en tant qu'auteur, ainsi que les productions littéraires, s'articulent autour de l'individualisme et de la liberté revendiquée de la création. Ils sont nés autour de 1900 et ils se font connaître dans les années 20 par la poésie, par le journalisme ou la nouvelle. Les deux auteurs masculins sont relativement peu connus en 1931. Les écrivaines, elles, jouissent d'une renommée évidente, notamment pour leur poésie qui est consacrée par les prix littéraires et reconnue par la critique. Une reconnaissance qui va d'ailleurs favoriser leur entrée en contact avec Albert Lévesque, éditeur qui cherche justement, au tournant des années 30, à dynamiser la littérature de son temps par la voie d'une collection axée sur les romans et sur les auteurs émergents. Alors, je ne vais pas résumer les quatre romans ici par manque de temps, il y en a quand même quatre et j'ai plein de choses à dire. Disons qu'ils fonctionnent quand même autour d'un personnage central ou d'un couple. Didi dans La chair décevante, Camille dans les ombres, Violaine et le narrateur dans L'initiatrice, ou encore Jérôme et André dans Dilettante. Ce sont des personnages issus de la bourgeoisie ou de l'élite artistique et qui espèrent trouver dans l'amour la réalisation d'eux-mêmes. On voit ici que le roman prolonge le courant néo-romantique amorcé en poésie dans les années 20, courant auquel étaient d'ailleurs associés Bernier et Sénécal. Dans cette perspective, le cheminement amoureux proposé par le récit conduit à un même dénouement que celui qu'on pouvait observer dans les poèmes, marqué par la mort, la folie, la résignation ou la mise à l'écart de la société. En d'autres termes, un dénouement marqué par la déréliction du sentiment amoureux, celui-ci n'étant pas toujours partagé, ni sincère, ni durable, ni même capable de coexister avec la prise de conscience du sujet, de sa capacité à agir. Ça se confirme sur le plan formel. Si les quatre romans émanent d'une même matrice générique, celle du roman d'amour, celle-ci s'hybride avec le roman psychologique. Les stratégies énonciatives, comme la focalisation interne, l'usage de la première personne du singulier, l'intégration de formes et de discours du personnel, comme la lettre et le journal intime, favorisent cette hybridation. Ces éléments invitent d'ailleurs à lire les romans de la jeune génération à la lumière non pas des normes esthétiques en vogue au Québec à l'époque, mais bien de la littérature française contemporaine, et particulièrement les romans psychologiques bourgeois ou les textes de l'inquiétude spirituelle. Et d'ailleurs, on remarque un large phénomène intertextuel qui va quand même intégrer la présence d'André Gide, de Pierre Loti, d'André Mauroy, de Julien Green ou de François Mauriac. L'aventure éditoriale des romans de la jeune génération s'en est également une sur le plan générique. Et on peut déjà sentir les débordements esthétiques qu'imposent de tels textes dans un Québec où Mauriac comme Gide n'ont pas encore vraiment bonne presse et où le dévoilement de soi au détriment de la communauté et même de la nation va donner aux animateurs de la vie littéraire de l'époque, comme Lionel Groulx ou Camille Roy, de sacrés maux de tête. Sur cette question de la subjectivité, il n'est d'ailleurs pas vain de remarquer, au gré des quatre titres, une même spectacularisation de l'écriture qui va appuyer le déploiement d'un « je » et de son individualité, et ultimement déplacer l'intrigue amoureuse vers une introspection plus personnelle et une expérience plus incarnée de l'existence. Le terme « figure de l'écrit », qui est cher à Fernand Roy et à Louise Millot, entre autres, et que je vais définir de façon très large comme l'inscription de marqueurs de l'écriture, peut être commode pour appréhender, dans le cadre de cette réflexion, un large système de représentation de la parole, qu'elle soit lue ou écrite. On peut repérer deux grands ensembles de figures de l'écrit. Tout d'abord, la présence de la littérature, qu'elle soit manifeste par le biais d'un personnage d'écrivain, d'un livre ou d'un intertexte. Conjointement à la littérature, c'est bien entendu l'écriture, mais là en tant que pratique, épistolaire, diaristique, témoignage, qu'il faut considérer au sein du système énonciatif. Cette omniprésence des figures de l'écrit, divisée donc en ces deux catégories, va venir supporter les figures de l'exaltation et du débordement présentes dans les quatre romans. Dans « Dilettante » de Claude Robillard, le héros Jérôme est un aspirant à la carrière littéraire. Il va peu à peu faire l'apprentissage, évidemment, de la complexité du jeu littéraire, mais également d'une figure qu'on pourrait appeler l'échauffement, ce qui va le pousser à commettre plusieurs erreurs et même à voir sa fiancée André mourir dans un accident de voiture. Le cheminement de Jérôme, du calme vers la vitesse qu'on pourrait même qualifier de explosive, commence lors de sa rencontre avec un poète et critique qu'il admire, Renaud Baudry. Lors de cette séquence, le jeune auteur plein d'illusions fait face au littérateur qui est, lui, un connaisseur de l'illusio du champ littéraire. Un débat entre ces deux personnages, frontalement opposés sur le plan des valeurs, va pulvériser la relative entente entre les deux. Jérôme, qui est pourtant peu habile à s'exprimer en public, va se lancer dans une profession de foi où l'amour, l'amitié, la religion, la tentation pour l'écriture et le respect des règles sociales se confondent, tout ça dans un même réquisitoire en faveur de la vie. Et je vais citer le texte. « Oui, assister à la vie en spectateur, se ficher de tout, s'endurcir le cœur au point de ne souffrir de rien. Je conçois qu'une telle mentalité réduise considérablement la part des déceptions et des désillusions, mais elle limite aussi les instants de bonheur. » Et à la suite de quoi il va s'excuser, je cite encore, « Je me suis encore échauffé, j'ai été ridicule, j'ai probablement dit des choses contradictoires. » Cet échauffement est révélateur d'un topos romantique et romanesque qui traverse le roman, celui d'un écrivain en proie aux passions et qui prêche, soit par amour fou, soit par délit de jeunesse, pour la liberté. Quoique contraint par ses accès de cupidité et par une volonté aussi de se distinguer socialement, Jérôme accuse, en même temps que son innocence, son emportement hors des cadres de l'argumentation. La peur d'être ridicule ainsi que la contradiction dont il s'excuse sont ici les marqueurs d'une exaltation qui va aller à l'encontre de son interlocuteur, le dilettante Renaud Baudry. La littérature sert de moteur, au même titre que l'amour, aux emportements de Jérôme. Et en ce sens, l'accident de voiture qui va clore le roman peut être lu comme une métaphore des détours sentimentaux et psychiques de Jérôme qui finalement va aller dans le décor. Cet accident de voiture, d'ailleurs, intègre dans Dilettante un motif typique de la prose mélodramatique des années 30 au Québec. Le roman de Robillard, à l'instar de celui d'Eva Sénécal, fourmille de ces événements où les personnages perdent le chemin, virent dans le décor, que celui-ci soit physique ou social. Que dire, par exemple, d'une tentative de viol, ou encore de la séduction de Jérôme par une prostituée. À l'image de ces événements et de la voiture, ces écarts de conduite témoignent d'une nouvelle façon de raconter, où le fait divers, morbide et inquiétant, vient dynamiser l'intrigue et se faire le pendant presque concret des considérations noires, mélancoliques et excessives des personnages. C'est dans cette perspective qu'il convient d'observer le narrateur de l'initiatrice, donc de Rex Desmarchais, un jeune homme rêveur et lecteur qui confesse, dès le début du roman, je cite, « son enthousiasme stérile et fécond » et je cite encore « son exaltation pour la littérature ». Le récit, qui est son témoignage écrit des événements a posteriori, Donc dans ce récit-là, le narrateur va se porter comme le héros d'une utopie de la création, une utopie propice à la contemplation de la ville démoniaque et de sa société qui est cancanière et déconnectée d'enjeux plus grands et romanesques, comme l'amour. L'amour, c'est justement le levier de l'intrigue de l'initiatrice, puisque le héros tente vainement d'obtenir les faveurs de Violaine, une jeune femme mystérieuse qui habite dans un château tout aussi mystérieux situé sur le Mont-Royal. Grâce au support du carnet, on retrouve de longues envolées monologiques où le narrateur s'adresse ainsi à celle qu'il aime. « Oh, Violaine, ne crains plus ni la solitude hostile, ni les bruits nocturnes. Je serai près de toi toujours si tu veux m'ouvrir ton cœur et ne plus me dérober une part de ta vie. » La jeunesse, bien entendu, sert là de prétexte à de tels échauffements. Je cite le texte. Une citation à retenir. « On n'est jamais pervers à 20 ans, mais irréfléchi et révolté contre les contraintes. » Mais ni le jeune âge, ni la littérature, ni même l'écriture du carnet ne permettent au héros d'accéder d'une quelconque manière à la jeune fille, qui va d'ailleurs décéder, là encore, suite à de mélodramatiques révélations. Dépité, prêt à en finir avec l'écriture de son récit et les livres qui l'ont jusqu'à présent influencé, le narrateur conclut « La vie studieuse, vie avec une minuscule, n'est pas toute la vie. » Une majuscule pour servir la personnification. Aujourd'hui, je le comprends, une force toute puissante me pousse. Je veux vivre intensivement comme toi, Violaine. Ce constat, on le voit, souligne en creux l'inefficacité de la littérature et de l'écriture à soutenir le rapport du héros au monde. Donc va vivre en arrêtant l'écriture. On retrouve une pareille affirmation dans « Dans les ombres » d'Eva Sénécal. Ici, on n'a aucun écrivain, juste une femme qui n'entend pas faire de la littérature, mais vivre en littérature. Prise entre son mari qui est absent et un jeune américain dont elle tombe amoureuse, Camille se plonge dans un échappatoire que lui offrent les livres, ainsi qu'elle l'explique dans ses lettres à l'américain. Elle est volontiers romanesque, comme elle se plaît à le penser, et on peut dire qu'elle est en proie à un bovarisme qui lui permet de vivre une autre existence au sein d'un tiers-espace qu'est la nostalgie, et donc la figure qui va la caractériser. Les livres de Pierre Loti, auteur dont l'influence se fait sentir jusque dans le canevas du récit, initie le souvenir de l'enfance ou d'un temps mythique du Québec. La nostalgie et la langueur qui va la caractériser conduisent l'héroïne à évoluer dans un hors-temps, dans un espace du rêve et de l'invention du passé, et finalement dans une mise à l'écart relative des modèles féminins et du carcan social. À mi-chemin entre l'initiatrice, puisqu'il reprend la formule du carnet d'écriture, et de Dans les ombres pour cette langueur du personnage féminin, La chair décevante de Jovette Alice Bernier se structure autour de deux discours étroitement liés qui font imploser les limites de la représentation de la subjectivité féminine. Le premier discours, comme l'a d'ailleurs très bien montré Laurie Saint-Martin, touche à la maternité, puisque Didier est une fille-mère qui assume, voire revendique le droit d'aimer son fils légitime dans une société de la réprobation. Le second discours a trait, lui, à la sensualité d'un personnage désiré et désirant. Maternité et sensualité s'entrelacent par le truchement d'une exaltation régulière, marquée par la ponctuation, mais aussi par une parole syncopée, télégraphique, diront même les critiques de l'époque, et qui se libère des carcans syntaxiques en vigueur. Au gré de ces interruptions et de ces reprises, la parole de Didier se fait l'écho des allées et venues de l'héroïne dans l'espace, au Canada, en France, en Italie. Se fait l'écho également de ses hésitations et de la venue progressive d'une féminité qui est conjuguée au maternel. Ce qui va d'ailleurs se concrétiser à Venise, où l'héroïne penchée sur son balcon face au canot crie au monde « Je veux vivre, vivre, désespérément vivre ». On constate donc, au gré de ce parcours assez mince finalement, que l'obsession pour la parole, elle est évidente dans les romans de la jeune génération. Une obsession qui va d'ailleurs aboutir à une tentative d'expression qui malgré tout échoue dans sa volonté de dire une vérité inconcevable. Dans un célèbre article sur la parole féminine autonome, Lucie Robert parlait très justement d'une éthique et d'une esthétique de la rupture à l'œuvre chez Jovette Bernier. Globalement, en fait, la rupture, en tant qu'éthique et en tant qu'esthétique, c'est ce qui domine dans les quatre titres de la collection. Les figures de l'écrit, comme les états du débordement et de l'exaltation, fonctionnent dans un même rejet du projet littéraire national, en abordant la sensibilité et même la sensualité détonnante et colorée des personnages comme une sorte de clé de voûte de la fiction. La sensualité, l'échauffement, la nostalgie, portées par cette parole en quête d'autonomie, aboutissent tous à un même thème, la vie. Mouvante, bouillonnante, la vie, c'est un trait définitoire de cette collection. Mais la vie, c'est également un des axes fondateurs de la pensée intellectuelle qui se développe dans les années 30, et notamment à partir de 34-35, selon Yvan Lamonde. Les années 30, on le sait, une véritable période de crise spirituelle et existentielle. Dans son livre paru en 2011, La modernité au Québec, Lamonde parle très justement d'une épistémée de la vie et du vivant qui va renouveler les identités politiques et religieuses, mais aussi la vie culturelle et médiatique de la décennie. On peut citer quelques exemples. La revue Vivre, en 1934, c'en est un jalon. Notamment quand ils disent « Il ne s'agit pas simplement d'exister, il faut vivre ». Les peintures d'Adrien Hébert sont également tributaires d'une réflexion sur le sujet et sur l'art qui vont dans le même sens. Les textes polémiques et romanesques de Jean-Charles Harvey, la subjectivité revendiquée de Lionel Groulx, celle en poésie de Saint-Denis Garneau, ou, dans un tout autre genre, les travaux scientifiques du frère Marie-Victorin, s'inscrivent, selon Lamonde, dans le sillon d'un combat pour la modernité qui s'articule autour d'une recherche du vivant et d'une refonte des principes de représentation du réel. Donc, selon Lamonde, ça se structure notamment autour de 34-35, mais il semble quand même, à la lecture des romans de la jeune génération, que cette collection participe en amont d'un tel renouveau culturel. Les stratégies formelles, élaborées sur le principe de la parole écrite ou lue, abondent dans ce sens. De même, les figures discursives de l'exaltation ou du débordement, comme la langueur, comme l'échauffement, qu'on a pu voir dans Dilettante, sous-tendent une même crise de conscience de la part des personnages. On se rappelle le narrateur de l'initiatrice « Je veux vivre intensivement », en conclusion au roman, comme si l'unique porte de sortie du tourment amoureux et psychique résider dans la volonté d'embrasser entièrement, intégralement, les souffrances et les joies d'une vie humaine. Cette intensité, cet emportement, cette fuite mouvementée en avant, se cristallise avec le roman le plus discuté de la collection, et c'est sans doute pas un hasard, La chair décevante. Une phrase du texte, placée d'ailleurs en épigraphe au roman, avertit le lecteur, et je cite « On aime le rêve, on aime la féerie, entre parenthèses on pourrait même dire on aime la fiction, mais on n'aime pas la vie. Tant pis, la vie en revanche nous vole ce qu'on aime. » La chair décevante est remplie de ces sortes d'aphorismes, ce qui permet de lire non pas uniquement le roman comme une œuvre d'imagination, mais également comme un texte manifestaire dans lequel l'héroïne, Didi, va exemplifier autant les splendeurs que les décadences de l'existence, tout comme elle disserte sur les fonctions esthétiques et philosophiques de la littérature et de la vie vues dans leur entrelacement. Didi, l'héroïne, rappelle d'ailleurs que les forces déterminantes de l'être humain ne sont rien face à cette vie qui est d'ailleurs souvent personnifiée. Et je cite à nouveau le texte, « Il y a quelque chose de plus fort que le courage, la tendresse, le dévouement, le sacrifice, finalement quelque chose de plus fort que tous les thèmes qui sont abordés dans la littérature à l'époque, dans la littérature notamment cléricoconservatrice. Il y a quelque chose de plus fort que toi, l'amour, bon, le roman d'amour, plus que toi, la mort, plus fort que tout, plus fort que vous tous, il y a la vie, avec majuscule. » Il n'est pas inintéressant de voir comment se conclut le roman. L'enthousiasme du personnage féminin face à la vie, corrélé à la redécouverte d'une sensualité perdue, conduit de façon paradoxale à la folie et à la marginalisation de Didi. Le langage de la déraison, qui marque les dernières pages de La chair décevante, et qui alterne entre la colère, le désespoir, le désir et l'ironie, délimite un nouveau territoire pour la parole féminine solitaire, comme d'ailleurs l'a dit Laurie Saint-Martin et également Lucie Robert. Une sorte d'alternative discursive pour une femme qui est finalement accusée par la société d'avoir trop voulu vivre. En conclusion, l'étude des romans de la jeune génération met en lumière les enjeux poétiques mais également épistémologiques que recouvrent l'exaltation et le débordement dans le contexte québécois de la première moitié du XXe siècle, supportés par des stratégies énonciatives qui misent autant sur les effets de réel que sur la réappropriation de la parole. Ces deux états se diffractent en une palette de figures discursives qui tentent à réinventer les genres, les formes et les récits traditionnels. L'apport de cette collection, où se condense un même rapport au monde et de mêmes influences littéraires, se mesure également sur d'autres plans que celui du littéraire. Les quatre romans sont branchés sur les préoccupations intellectuelles, spirituelles, voire politiques qui secouent le Québec de la crise. En particulier, les romans de Bernier et de Sénécal sont étroitement liés, on s'en doute, au bouleversement entourant la condition féminine et ses représentations. Dans les deux cas, l'exaltation et le débordement brassent tout autant la cage de l'édifice littéraire national que celle d'un système social et culturel où le féminin serait réduit au silence ou au désincarné. Aussi, tant dans leur singularité que dans l'élan collectif qu'ils cristallisent, les romans de la jeune génération constituent un ferment d'anarchie qui marque profondément l'imaginaire des années 30 au Québec. La révolte d'un Jean-Charles Harvey dans Les demi-civilisés, les inquiétudes d'un Menot maître draveur de Félix-Antoine Savard, ou encore les questionnements métaphysiques de Michel Lenormand dans La plus belle chose du monde, trouvent peut-être dans cette colère qui sourd, dans les égarements sensuels du roman de Bernier, dans le regard effrayé et déterminé du narrateur, de l'initiatrice, les ramifications d'un même rapport, d'une même ferveur à la vie, oui, mais de la vie hors la loi.